Il y a quelques années, j'étais allé avec plusieurs personnes camper dans les montagnes. De retour d'une excursion que j'avais fait seul, un jour, je tombais au milieu d'un discours métaphysique. Il s'agissait d'un écureuil, d'un agile écureuil que l'on supposait cramponné, d'un côté, au tronc d'un arbre, tandis qu'un homme se tenait de l'autre côté, en face, et cherchait à l'apercevoir. Pour y arriver, notre spectateur humain se déplace rapidement autour de l'arbre. Mais quelle que soit sa vitesse, l'écureuil se déplace encore plus vite dans la direction opposée. Toujours, il maintient l'arbre entre l'homme et lui, si bien que l'homme ne réussit pas une seule fois à l'entrevoir. De là ce problème métaphysique, l'homme tourne-t-il autour de l'écureuil, oui ou non? Il tourne autour de l'arbre, bien entendu, et l'écureuil est sur l'arbre. Mais tourne-t-il autour de l'écureuil lui-même? Dans les interminables loisirs de la solitude, la discussion avait fini par s'épuiser. Toutes les sources en étaient taries. Chacun avait pris parti et s'entêtait dans son opinion. Les forces se balançaient et les deux camps firent appel à mon intervention pour les départager. Moi, je me souvins de l'adage scolastique qui veut qu'en présence d'une contradiction, on fasse un distinguo. « Qui de vous a raison ?» leur dis-je. « Cela ne dépend que de ce que vous entendez pratiquement par tourner autour de l'écureuil. » S'il s'agit de passer par rapport à lui, du nord à l'est, puis de l'est au sud, puis à l'ouest, pour vous diriger de nouveau vers le nord, toujours par rapport à lui, il est bien évident que votre homme tourne réellement autour de l'animal, car il occupe tour à tour ces quatre positions. Voulez-vous dire au contraire que l'homme se trouve d'abord en face de lui, puis à sa droite, puis derrière, puis à sa gauche, pour finir par se retrouver en face? Il est tout aussi évident que votre homme ne parvient pas du tout à tourner autour de l'écureuil. En effet, les mouvements du second de votre personnage compensent les mouvements du premier, de sorte que l'animal ne cesse à aucun moment d'avoir le ventre tourné vers l'homme et le dos tourné en sens contraire. Aussitôt faite, cette distinction met fin au débat. De part et d'autre, vous avez tort et vous avez raison, suivant que vous adoptez l'un ou l'autre de ces deux points de vue pratiques. Parmi les antagonistes les plus échauffés, il y en eut un ou deux qui traitèrent ma réponse de pur équivoque. De simples échappatoires. Avec eux, disait-il, il ne s'agissait pas d'ergoter ou de fendre un cheveu en quatre, à la manière des scolastiques, leur affaire à eux, c'était un bon assaut loyal, où l'on y va carrément, à l'anglaise. Mais la majorité sembla bien admettre que mon distinguo avait aplani le terrain de la discussion. Si je vous raconte cette anecdote toute familière, c'est qu'elle fournit un exemple particulièrement simple de la méthode dont je veux maintenant vous parler sous le nom de méthode pragmatique. La méthode pragmatique est avant tout une méthode permettant de résoudre des controverses métaphysiques qui pourraient autrement rester interminables. Le monde est-il un ou multiple? N'admet-il que la fatalité ou admet-il la liberté? Est-il matériel ou spirituel? Voilà des conceptions dont il peut se trouver que l'une ou l'autre n'est pas vraie, et là-dessus les débats restent toujours ouverts. En pareil cas, la méthode pragmatique consiste à entreprendre d'interpréter chaque conception d'après ses conséquences pratiques. Voici alors comment elle pose le problème. Que telle conception fût vraie et non telle autre, quelle différence en résulterait-il pratiquement pour un homme? Qu'aucune différence pratique ne puisse être aperçue, on jugera que les deux alternatives reviennent au même et que toute discussion serait vaine. Pour qu'une controverse soit sérieuse, il faut pouvoir montrer quelle conséquence pratique est nécessairement attachée à ce fait que telle alternative est seule vraie.